Bonjour à tous. Alors juste, j'ai un diaporama normalement. Juste s'il fonctionne. Ah non, ça c'est les champs. Ah voilà, c'est bon. Ok. Donc, du coup, j'ai un peu spolié ce que je voulais vous partager. Mais j'avais beaucoup de... ça fait longtemps que Mathieu m'a demandé pour prêcher aujourd'hui. Et j'avoue que j'étais dans le mode faire des vœux, ainsi de suite, et ce qui n'est pas forcément stupide non plus. Mais en même temps, j'avais vraiment très à cœur de parler sur quelque chose que je vis plutôt que sur quelque chose que, bon, bah, de futur ou ainsi de suite. Et j'ai vraiment à cœur de simplement vous partager mon cœur. Et ça parle du cœur, justement, du coup, aujourd'hui. Et on est en pleine période d'hiver. Et du coup, bah, chez nous, c'est le chauffage avec le poêle à bois. Et il y a tellement d'images avec le poêle à bois. C'est assez simple de trouver plein de comparaisons et tout ça. Et il y en a une qui est quand même assez... assez régulière chez moi, c'est on se lève le matin et la, je sais pas pourquoi la, le feu a pas bien brûlé et du coup on a une grosse bûche qui aurait dû ne plus être là mais elle est là et on voit qu'il y a une toute petite braise au bout de la bûche mais vraiment elle ne peut pas, elle ne chauffe rien, il y a pas de flamme, voilà. Et à ce moment-là, ben du coup ben le rôle mon rôle à moi c'est de remettre du petit bois pour que la bûche elle s'enflamme. Et elle s'enflamme, et elle brille, et elle chauffe, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cette image-là que j'avais sur le cœur. Et du coup, c'est notre cœur ne brûlait-il pas ? Je vais juste baisser un peu parce que j'ai une petite info en bas. Ah non, ça ne rentre pas du coup. Donc, notre cœur ne brûlait-il pas ? C'est ce que se sont dit les deux disciples quand ils parlaient avec Jésus et qu'ils étaient tristes, ils étaient abattus parce que justement Jésus était mort et tout ça, et qu'ils avaient mis tellement d'espoir en lui et de se dire que ben, Jésus était mort, ils étaient juste au fond du trou. Et en même temps, sans s'en rendre compte, ils parlaient avec Jésus. Et il y a du coup cette question qui se pose après, mais notre cœur ne brûlait-il pas ? Et du coup, il décide sur le champ, c'est ce qui est écrit le verset d'après, il se lève et retourne à Jérusalem. Voilà, il y a une action qui est directe. Voilà. Et ce matin, j'aimerais vous parler du cœur, parce que immédiatement, j'ai pensé à aussi ce verset que, qui parle du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le proverbe 4, 23. Et du coup, au lieu de faire des vœux, ce serait plutôt une recommandation que j'aimerais vous faire ce matin, de garder votre cœur plus que toute autre chose. Voilà, c'est la recommandation pour cette année. Et moi, personnellement, en travaillant ce message, ça m'a vraiment remis en question, touché. Et j'espère que je souhaite vraiment que le Saint-Esprit fasse cette œuvre en vous. Et garde ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est un verset qu'on a l'habitude d'entendre. Mais du coup, j'ai été voir un petit peu la version dans laquelle elle a été écrite. Et dans l'étymologie, garde, c'est veiller, surveiller, préserver, contre les dangers, tenir, observer. Ton cœur, c'est l'homme intérieur, l'esprit, la volonté. Plus que toute autre chose, et c'est là c'est assez fort, c'est un lieu de confinement, une prison, garde, géole, veille, observer, une garde. Et c'est vrai que je pense que dans notre façon de l'aborder, ce verset, garde ton cœur plus que toute autre chose, on passe à côté de l'idée qu'il y a vraiment une importance capitale plus que toute autre chose. C'est comme si on était dans une prison, qu'il ne fallait pas que, mettons l'ennemi public numéro un, il ne faut pas qu'il s'échappe. Voilà. Et ben, on est dans cet esprit-là. Okay, dans notre volonté de garder notre cœur, il faut que notre cœur soit préservé à l'intérieur. Car de lui viennent les sources, donc l'issue, la frontière, la sortie, l'extrémité, la fin de la vie. Et là, j'ai bien aimé, parce que bon, bah, dans le mot vie, il y avait vif, vert, la végétation, à l'inverse de sec. Hein. Il y a l'eau qui est fraîche, l'eau vivante. Il y a un homme actif, à l'inverse d'un homme qui est mort ou qui est inactif. Et il y a aussi l'idée du printemps. Et je trouve ça très beau de se dire que dans la vie, il y a tout ça qui est là. Okay. Et Donc, c'est vraiment mon désir pour vous et pour moi de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et du coup, juste pour une image, j'ai mis, c'est certainement notre ami Peter qui pourrait nous en dire plus, mais Fort Knox, j'ai cherché les lieux les mieux gardés au monde, et donc ça en fait partie. Donc apparemment, il y a beaucoup d'or dedans, donc forcément, aux États-Unis. Et donc ce fort est gardé de manière, il est imprenable, quoi. Donc c'est un peu l'idée avec notre cœur, qu'il soit imprenable. Et maintenant, la personnalité les mieux gardées. Il y avait Vladimir Poutine, et puis il y avait aussi Kim Jong-un. Et on voit le nombre de personnes qui sont autour et qui le gardent. Il y a encore cette idée de garder, que la personne ne soit pas atteinte. Et c'est cette idée-là que vraiment j'aimerais ancrer dans votre tête, que votre cœur soit gardé, soit protégé, et qu'il ne puisse pas être atteint par l'ennemi. La question qu'on peut se poser, du coup, c'est... Je l'ai remis en le mettant avec mes mots à moi. Veille et préserve contre les dangers ton homme intérieur, ce que tu penses, tes aspirations, pour que rien de mauvais n'y pénètre, car c'est lui qui te permet d'avoir une eau fraîche, de renaître, d'être actif. Voilà, bon, c'est une idée, mais il y a vraiment cette idée de que rien de mauvais ne pénètre. Voilà. Et comment veiller sur notre cœur? Comment le protéger? C'est un peu la question, du coup, qui vient, quoi, hein, c'est logique. Et on a bien sûr de suite en tête les armes spirituelles. Et je me rappelle que Célia m'en avait parlé quand on s'était retrouvés pour les braises. Donc le casque du salut, l'épée de l'esprit, la cuirasse de la justice, ainsi de suite. Mais dans la vérité, est-ce qu'on est toujours en mode comme ça, combattant, prêt à se battre, dans la vérité, je trouve que des fois, en tout cas dans ma vie, on est plutôt en mode, donc là on le voit peut-être pas très bien, mais c'est un soldat qui est un peu, qui est pris sous des bombes, quoi, et qui est au sol, et en mode un peu survie, voilà. Et je trouve que, en tout cas dans ma vie, moi c'est ce qui s'est passé ces derniers temps, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que des fois, on est en mode survie. On n'est pas en mode warrior où la cuirasse brille et étincelle, l'épée est nickel, il n'y a pas il y a rien qui dépasse. Non, on est plutôt tout plein de cambouis, plein de poussière, vous voyez, limite blessé à droite et à gauche, la cuirasse a pris un coup, enfin voilà. Et du coup, comment garder son cœur? Comment veiller sur son cœur? Parce que dans le concret de la vie, oui, Jésus est avec nous, tout ça, mais tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais des fois, on a le sentiment d'être seul. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et du coup, je disais, mais Seigneur, mais comment garder mon cœur? Comment? Enfin voilà, j'ai le sentiment d'enchaîner des situations où il fallait se battre. Voilà, et je pense pas que ce soit quelque chose de forcément nécessaire. Alors Estelle, dans ses chants, disait « Tu as toujours été fidèle ». Il était merveilleux ton chant, Estelle. « Tu es toujours là pour moi ». Alors dans nos combats, le Seigneur est toujours là. Et en fait, un mensonge qu'on pourrait croire, c'est qu'il n'est pas là. Mais il est toujours là. Mais nous, des fois, on a le sentiment d'être seul. Et c'est tellement faux. Mais j'aimerais vraiment ce matin vous amener à garder votre cœur, même de ces pensées-là, justement. J'aimerais vous... avant d'aller plus loin, vous parler d'un homme... qui s'appelle Hiro Onoda. Je ne sais pas si vous le connaissez, moi je ne le connaissais pas du tout. Mais en fait, par rapport à ça, j'ai écouté plein de choses et tout ça, et du coup, notamment cette histoire qui m'a un petit peu... qui était une belle image, je trouve, des combats inutiles. Parce qu'on peut aussi se battre de manière inutile, en fait. On mène des combats qui ne servent à rien. Et voilà, donc avant de vous parler de cœur et tout ça, mais je voulais vraiment vous mettre en garde de ne pas vous battre pour des choses qui ne servent à rien. Et Hiro... Onoda, c'était un soldat de l'armée impériale japonaise, donc là vous l'avez à gauche à 20 ans. Et donc il s'est engagé durant la Seconde Guerre mondiale, sauf que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand on a annoncé que la guerre était finie, lui il ne l'a pas cru. Il a cru que c'était une ruse de l'ennemi, il a cru que c'était un mensonge des alliés, et du coup il est resté, lui, en mode combat, il est resté en mode soldat pendant 29 ans. pendant 29 ans, il est resté reclus en mode je vais protéger. Donc sa mission, c'était d'empêcher le débarquement américain dans l'île, dans une petite île qu'il protégeait. Il n'était absolument pas au courant qu'il y avait eu Hiroshima et Nagasaki. Et lui, en fait, il était en mode je protège mon île et contre tous les soldats américains qui devraient venir. Mais bon, voilà, il n'était pas au courant qu'il y avait 29 ans que la paix avait été signée. Et il était reclus, et il se nourrissait comme il pouvait. Il a même volé forcément des choses, ainsi de suite. Il a tué des personnes aussi, tout en pensant qu'il était en pleine guerre. Mais en fait, il n'y avait plus de guerre. Et je trouvais que cette image était vraiment forte, parce que derrière, il y a un jeune homme, un jour, qui a eu pitié de lui, et qui a été le chercher, et qui a été lui expliquer. Mais en fait, il ne voulait pas quitter son... sa forêt, ses planques, et il restait en mode non, on est encore en guerre et je dois protéger, ainsi de suite. Et il a fallu que donc le jeune homme a eu l'idée d'amener son commandant qui est venu lui dire oh mon coco, la guerre est finie. Voilà, il y a que son commandant qui a pu lui dire stop, maintenant il faut que tu arrêtes, pose tes armes, la guerre est finie. Et donc voilà, il y a cette image de quand il retourne enfin à la civilisation. Et je voulais vraiment vous mettre du coup en garde contre ces batailles qu'on peut mener et qu'on n'a pas besoin de mener. Parce que qu'on soit conscient, avant même de parler de bataille, que le combat est déjà gagné. En fait, voilà, Jésus-Christ à la croix a livré publiquement les autorités. Il les a livrés en spectacle. Et du coup, ce n'est pas un leurre, c'est une vérité. Et ne soyons pas comme cet homme, Hiro Onoda, qui s'est battu pour rien, en fait. Parce que pour nous, le combat est gagné. Et c'est donc dans la version, ma petite version là que j'aime bien, français courant. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, en les emmenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son fils. Donc voilà, Jésus a remporté la victoire. On n'a pas à mener des combats. Voilà, c'est aboli. Alors bien sûr, on a des attaques de l'ennemi, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas, mais sinon, je ne serais pas en train de dire ça, mais le combat est gagné. On a une posture de vainqueur, en fait. Voilà, il faut que dans notre tête, on ait cette posture-là, on est des vainqueurs, on n'a plus besoin de se battre. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes délivrés. Alors, la question qu'on pourrait quand même se poser du coup, c'est pourquoi est-ce qu'il faut se battre si le combat est gagné? Parce que malgré tout, dans la vie de tous les jours, on sent quand même qu'il y a des combats. Tout à l'heure, Olivier parlait de il y a des failles dans le camp de l'ennemi. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il faut se battre? Pourquoi s'armer si le diable est dépouillé? C'est quoi le combat spirituel du coup? La Bible parle aussi de forteresse. Et c'est quoi une forteresse? Voilà, et c'est un petit peu les questions un petit peu candides que je me suis posées et que du coup je pose ce matin et auxquelles j'aimerais répondre. Donc qu'est-ce qu'une forteresse? Assez basiquement, une forteresse, alors pardon, c'est le verset duquel j'ai tiré le mot forteresse, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Donc les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc les armes qu'on a sont là pour renverser des forteresses. Ok, c'est un des buts de nos armes, c'est renverser les forteresses, renverser les raisonnements. Alors qu'est-ce qu'une forteresse du coup? Je vous ai mis une photo... assez simple, hein. Donc une forteresse, c'est un château, une forteresse, toute chose sur laquelle on s'appuie, un argument, un raisonnement. Et du coup, il y a aussi forcément dans une forteresse plusieurs propriétaires, parce qu'une seule personne aurait du mal à protéger, mais il y a plusieurs propriétaires qui s'allient et qui font une forteresse pour résister à l'ennemi. Et du coup, les forteresses, j'ai écrit, donc nos armes servent à renverser les forteresses, et excusez-moi, je me suis perdu. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Donc, renverser les forteresses, c'est aller renverser les pensées que le diable a mis en nous. Alors, c'est un petit peu ce de quoi je voudrais parler. Pourquoi s'armer si le diable est dépouillé? C'est la diapo suivante. Votre père, c'est le diable. Donc pas le nôtre, hein, mais quand Jésus s'adresse aux personnes. Votre père, c'est le diable, et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur, lui le père du mensonge. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ?» Ensuite, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut s'armer si le diable est dépouillé? Ben, on voit que le diable, concrètement, il n'a plus d'autorité. Il a perdu cette autorité. Jésus l'a arraché à la croix. Mais il lui reste une chose, c'est la ruse. Okay? Et c'est ce qui est présenté ici. Le diable, c'est un meurtrier, un menteur. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur. Et on voit, du coup, que un de ses effets dans Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Donc on voit que notre cœur peut être rempli par Satan, au point que tu mentes. Voilà. Donc le diable est là pour remplir notre cœur et nous faire mentir. Mais il est là pour nous insuffler des mensonges dans notre cœur. Et notre rôle à nous, du coup, ça va être de ne pas accepter ces mensonges. Donc il n'a pas d'autorité, mais sa puissance, sa façon de faire, sa méthode, c'est la ruse et c'est le mensonge. Et il y a l'exemple d'Ève, du coup. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. » Là, le serpent insuffle une pensée à la femme. La femme était très sûre d'elle. « Ah, mais on peut manger tous les arbres, sauf un. » Et là, en fait, lui, il vient lui insuffler une pensée. On est en plein combat spirituel et il vient lui donner une forteresse, une nouvelle idée sur laquelle elle peut s'appuyer. Appuyer son raisonnement. Vous ne mourrez point. C'est donc le début d'une forteresse. Et après, il lui dit la suite. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon. Elle accepte le raisonnement du diable. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit le son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Donc on voit vraiment que le diable est là pour venir insuffler, semer des graines de mensonges. Et en fait, ben, si on accepte ces graines, si on accepte les vérités qu'il vient nous donner, ben, on peut s'appuyer sur ces vérités, être et vivre dans le mensonge. Et s'écarter en même temps de la vérité que Dieu nous donne. Un autre exemple où Satan vient dialoguer avec quelqu'un, c'est évidemment Jésus. Et là, cette fois-ci, il n'est pas du tout face au même adversaire, il est face à quelqu'un qui connaît, qui a une connaissance des Écritures et qui va pouvoir lui répondre par la vérité. Ce qui est fou, c'est que le diable s'approche de Jésus avec des vérités, mais le Seigneur Jésus va le contrecarrer avec d'autres vérités. D'où l'importance de connaître la parole de Dieu. Et j'aimerais attirer votre attention aussi sur le fait que le diable, que ce soit pour Ève ou pour Jésus, il vient quand la personne est seule. Donc, Adam n'était pas trop loin, mais malgré tout, Ève paraît seule. Ensuite, quand elle dialogue avec le diable, ensuite, elle donne du fruit à Adam. Et Jésus aussi était seul. Plus, Jésus était fatigué. Voilà, c'est écrit qu'il était fatigué de sa période de jeûne. Et c'est à ce moment-là que le diable vient. Et du coup, je voudrais vous mettre en garde. Souvent, c'est quand on est seul, quand on est fatigué, que le diable va venir nous présenter des idées et nous insuffler des pensées qui ne sont pas des pensées de Dieu. Et justement, une petite anecdote, moi, la semaine, il y a 15 jours, là, ce mois-ci, en résumé, j'ai eu le sentiment d'être malade tout le temps. Et quand quelque chose finissait, c'était quelque chose d'autre. Et je les ai un petit peu enchaînés. Et on a eu la braise pour Noël, là, une rencontre super. Et donc c'est à peu près il y a 15 jours. Et durant cette braise, j'ai verbalisé, j'ai demandé un cri au secours. J'ai dit, ça fait 3 nuits que je ne dormais pas. Et j'ai demandé à la braise de prier pour moi pour que je puisse passer une nuit tranquille. Et c'est vraiment important de prier les uns pour les autres. Et à ce moment-là, ils ont prié pour moi. Et la nuit qui a suivi, j'ai vraiment très bien dormi. Sauf que, je n'aurais pas dit, mais le lendemain matin, je me suis levé avec de la fièvre et un mal de tête et tout ça. Et j'allais travailler. Et en travaillant, j'étais seul. Il y avait du bruit. J'avais mal à la tête, la fièvre qui tombe sur moi. Voilà, je me dis, mais pétard, mais je n'étais pas obligé d'avoir en plus cette fièvre. Vous voyez ? Et j'étais seul et tout ça. Et à ce moment-là, il y a ma femme qui m'a appelé et je lui ai verbalisé tout ce que je vivais. Et je disais, mais voilà, je me sens seul, je me sens pas bien, je me sens malade. Je me dis, franchement, c'était pas obligé. Voilà, je lui ai verbalisé tout ce que je vivais, l'état de mon cœur. Et en fait, avec les enfants, ils ont prié. Et mais je vous garantis, c'est quasiment instantané de voir comment Dieu, moi, j'ai rien fait, mais Dieu a agi dans ma tête, en fait. Et voilà, je me suis remotivé. Et c'est comme si, claque, les symptômes de fièvre, de mal de tête ont disparu. Et j'ai pu finir mon travail en paix. Et voilà, c'était vraiment, on sent les attaques de l'ennemi qui sont là. Mais en fait, quand on est seul, mais quand on est plusieurs, et ben alors on est aussi fort, plus fort pour les repousser. Alors, tu dis quoi ? Venez aux braises. Alors, une manière du coup de résister au diable, c'est de s'armer de la vérité. Et dans Philippiens 4, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et du coup, quand on a une pensée qui vient, je vous invite à la faire passer par la grille de lecture de la Bible. Est-ce que cette pensée, elle est vraie ? Est-ce que c'est vrai ce qui est dit, par exemple, t'es minable ? Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est pas vrai. Le Seigneur dit qu'il m'a fait comme une créature merveilleuse, donc je ne suis pas minable, d'accord ? Voilà, on peut faire passer tout ça à la grille. Est-ce que ce que je pense, c'est vraiment honorable ? Est-ce que ce que je pense de la personne là, est-ce que je suis en train de l'honorer ? Ou est-ce que je suis en train de la descendre ? Voilà. Ben voilà, vous voyez, et c'est un travail qui demande de l'effort. Mais je vous rappelle, garde ton cœur plus que toute autre chose. Okay, il faut garder notre cœur. Ça demande un effort. Tout ce qui est juste, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pur ce que je pense là ? Voilà. Ne vous conformez pas au siècle présent, Romains 12, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et on voit qu'on a besoin du Saint-Esprit pour qu'il vienne justement renouveler notre intelligence, pour qu'on puisse voir avec sa grille de lecture à lui, qu'on puisse être inspiré par lui. Sinon, en fait, on va être inspiré par ce qu'on voit nous, mais ce qu'on voit nous, ce n'est pas forcément la vérité. En tout cas, c'est une vérité, mais ce n'est pas la bonne. Donc, comment renverser les forteresses ? Du coup, quand j'ai une pensée, je vais l'analyser avec la grille de lecture des pensées de Dieu. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pur ? Ainsi de suite. Dans le Proverbe 23, il est écrit, il est comme les pensées de son âme. Et souvent, quand on a des mauvaises pensées, alors en fait, ça va nous pousser à faire des mauvaises actions. Quand on pense des choses négatives sur nous, on va être reflété quelque chose de négatif également. Donc nous devons vraiment veiller sur nos pensées. Donc oui, Jésus a remporté le combat à la croix. Oui, Jésus, le diable est vaincu. Mais on a un rôle à faire, c'est à veiller sur notre cœur. Le fait de tout passer au travers d'une grille, c'est vraiment épuisant. Moi, je m'y suis prêté au jeu, du coup. Et c'est vrai que ça demande un effort. Et on voit d'ailleurs que dans la même journée, on peut, même des fois même dans la même heure, on peut passer de pensée négative à pensée de Dieu. Et la preuve, c'est Pierre, quand Jésus lui dit, quand il dit « tu es le fils de Dieu », voilà, Jésus lui dit « ces pensées t'ont été données par le Père, t'ont été révélées par le Père ». Donc les pensées ont été révélées par le Père. Et juste après, il lui dit « arrière de moi, Satan ». Mais ce n'était pas Satan, Pierre, mais ses pensées étaient inspirées par Satan. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans quelques instants après, on peut passer d'un moment à l'autre. Donc, d'où l'importance de vraiment veiller. Jésus, il a veillé, il a dit « arrière de moi, Satan ». Ok ? Il a vraiment arrêté de suite. Je continue. Voilà, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. Je trouve que ce verset est tellement puissant. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Que la lumière vienne dans votre cœur. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est marrant parce que Christelle, c'est ce que tu disais tout à l'heure dans la prière. Et voilà, c'est vraiment notre rôle de veiller sur notre cœur et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Alors je reprends mon soldat et je l'ai remis parce que je voulais juste vous montrer quand même que ce soldat, il est quand même costaud. Et je pense que, enfin, je sais pas si vous, peut-être, vous pourriez porter ces armes. D'ailleurs, on voit dans l'histoire de David et Goliath que David n'a pas pu porter les armes de Saül. Enfin, Saül, ça devait être un tank, quoi. Okay. Et en fait, on se rend compte que, ben, avant de porter les armes, il faut être fort. Voilà, il y a un verset qui nous le dit justement, fortifiez-vous. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On voit qu'il y a une étape avant de prendre les armes et de partir au combat. Il faut qu'on se fortifie dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et comment est-ce qu'on fait pour se fortifier dans le Seigneur ? Simplement en passant du temps avec lui, en priant en langue. Alors on est renouvelé. On est renouvelé. Et les armes de Dieu nous sont données, d'accord ? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est comme, revêtez-vous, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui vient sur nous. Et on voit que ces armes, ce sont les armes de Dieu. Voilà, ce n'est pas les nôtres, ce n'est pas notre façon de faire, c'est les armes de Dieu. Okay ? Et afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Encore une fois, on voit les ruses du diable. J'avance parce que je vois que l'heure tourne. Et le terme ruse, dont j'en ai déjà parlé tout à l'heure, ruse veut dire méthodia, qui a donné la méthode. Donc la méthode de l'ennemi, on a vu que c'est sa stratégie, c'est qu'il va nous attaquer dans les pensées, il va nous mentir, il va semer des choses qui sont fausses. Et en grec, le diable, ça veut dire diabolos. Se dit diabolos, et ça parle de quelque chose qui tape à répétition jusqu'à pénétrer. Alors, je sais pas, je vais juste vous faire une petite image. Je l'ai vue et du coup, je l'ai trouvée intéressante. Donc, je vous fais diabolos. Sur quelque chose jusqu'à pénétrer. D'accord ? Et en fait, voilà son œuvre. Je pense que cette image de diable. Qui tape à répétition jusqu'à pénétrer l'endroit. En fait, on l'a tous vécu. Ces pensées qui viennent comme nous mitrailler, nous harceler, d'accord, qui sont là, tap, jusqu'à pénétrer, jusqu'à ce qu'on les accepte. Mais on a aussi l'autorité de ne pas les accepter. Voilà. Et il nous faut résister dès qu'il arrive pour nous faire croire des choses. Si on veille sur nos pensées, comme je vous le disais tout à l'heure, on veille sur... notre âme, on veille sur notre corps, okay, on veille sur nos actions, du coup. Et le diable essaie de prendre l'avantage, c'est dans la Bible, hein, c'est pas moi qui l'invente, il essaie de prendre l'avantage, on a ce verset de 2 Corinthiens 2, et ce que j'ai pardonné, à qui vous pardonnez, je vous pardonne aussi, et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Donc on voit que Satan peut avoir l'avantage sur nous si on laisse des pensées, des graines être semées. Et après Jésus qui dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. » On voit du coup que le diable peut avoir des choses en nous. Il peut avoir des emprises sur nous, des portes qu'on lui a laissées ouvertes et par lesquelles il peut passer. Il cherche des prises sur lesquelles s'agripper, des croyances des fausses croyances grâce auxquelles il pourra avoir une influence sur nous. Si nous n'avons pas, il ne peut pas avoir d'emprise sur nous. Si on ne lui a pas laissé de place, il ne peut pas avoir d'emprise sur nous, comme Jésus. Il n'avait pas d'emprise sur lui. Alors peut-être que vous me direz, moi je ne suis pas Jésus, je ne connais pas la Bible par cœur. Malgré tout, on a un rôle à jouer et une veille à mener sur notre cœur. Par quel biais peut-il avoir une prise sur nous ? Forcément, il y a les péchés. C'est la première façon dont il... Donc péché, c'est désobéir. Il va, du coup, si on désobéit, le diable a une prise sur nous parce qu'il va nous ramener à notre désobéissance sans arrêt. Et ça peut être des pensées. Moi, j'ai noté quel hypocrite tu es. S'il savait ce que tu fais, il ne te parlerait pas. D'accord ? Voilà, c'est des pensées que le diable va mettre en nous. Mais il a une emprise sur nous parce qu'il y a un péché. Il y a quelque chose on est passé à côté du but. Ça peut être l'orgueil, ça peut être la jalousie, ça peut être du vol, ça peut être la convoitise. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de petits péchés. Voilà, nous, on a tendance à mettre des hiérarchies dans les péchés, mais il n'y a pas de petits péchés. Ça peut être aussi une peur qui va mettre sur nous, la peur de l'avenir. Luc en a parlé tout à l'heure. La peur d'attraper une maladie, un virus, la peur d'échouer, la peur d'oublier, la peur de manquer, la peur du regard des autres, de ce que les autres vont penser, la peur de ne pas être aimé. D'accord, c'est souvent en lien, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être aimé. Et voilà, toutes ces pensées, toutes ces peurs que le diable va venir semer en nous. Et si on les laisse, si on le laisse faire, en fait, ça va devenir des forteresses et ça va, du coup, guider nos actions. Ça peut être aussi des fausses croyances, des faux raisonnements. Par exemple, moi, j'ai longtemps cru qu'il fallait mériter l'amour de Dieu. Vous voyez, que si j'en faisais plus, j'aurais plus. C'est un peu calqué sur la façon dont font les hommes. On fait tout pour se faire remarquer dans une entreprise, pour être le meilleur, peut-être pour avoir un meilleur salaire, du coup, mais ainsi de suite. D'accord, on essaye de se faire repérer. Mais avec Dieu, il n'y a pas besoin de se faire repérer. La Bible dit que c'est par la foi l'on plaît à Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc c'est simplement par la foi qu'on peut lui plaire. Il n'y a pas besoin d'être un super héros spirituel. On lui plaît dès qu'on place notre confiance en lui. On n'a pas besoin de faire plus de jeûner plus. Je ne dis pas que c'est mal, au contraire, c'est très bien. Mais on peut faire les choses pour obtenir des choses au lieu de les faire par amour. Et là, c'est différent, sachant que quand on les fait par amour, on sait que les choses nous appartiennent. Voilà. On ne se bat pas pour obtenir, mais on possède les choses et on fait les choses par amour. Donc, c'est par la foi que l'on plaît à Dieu. Donc, là, Donc moi, quand j'ai pris conscience, du coup, de cette forteresse qui était là, c'est une forteresse, okay, il faut que je fasse des choses pour plaire à Dieu. Alors, je demande pardon à Dieu pour cette mauvaise conception. Et je confesse que je lui plais, pas parce que j'ai fait quelque chose, mais simplement par la foi. Je lui plais, je suis je suis son chouchou, son Jonathan. Et il y a Jean dans la Bible qui écrit, qui se présente, il s'autoproclame le disciple que Jésus aimait. Voilà. Et j'aimerais vous dire que ce matin, vous pouvez remplacer votre prénom et dire Rebecca. La disciple que Jésus aime. Peter, le disciple que Jésus aime. Voilà, on n'a pas besoin de faire des choses extravagantes. On est aimé pour ce qu'on est, simplement par la foi. Donc, je redis ce que j'avais dit au départ. Gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Vous avez vu que le diable veut venir semer des mensonges dans notre cœur pour nous amener, lui, à la mort. Et j'avais ce verset pour finir. Ma page s'est tournée. Mince. Bon, je n'aurai pas ce verset pour finir. Voilà. C'est dans Éphésiens 3 au verset 16. Je lui demande que selon la richesse de sa gloire, il vous donne d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Donc on voit que c'est lui qui nous fortifie avec puissance dans notre être intérieur et que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour et que, avec tous les membres du peuple de Dieu, vous soyez capables de comprendre combien l'amour de Christ est large et long et haut et profond. Oui, puissiez-vous connaître son amour, bien que personne ne parvienne jamais à le connaître complètement. Voilà.